Chapitre 24. Rebecca, une épouse pour Isaac. Une figure de l'appel de l'Église. La liaison qui existe entre ce chapitre et les deux précédents est digne de remarque. Au chapitre 22, Isaac est offert en sacrifice. Au chapitre 23, Sarah est mise de côté. Au chapitre 24, le serviteur reçoit la charge de chercher une femme pour celui qui a été, en figure, recouvré d'entre les morts. La succession de ces événements coïncide d'une manière frappante avec l'ordre des faits relatifs à Christ, à Israël et à l'appel de l'Église. Les grands faits que nous rencontrons dans le Nouveau Testament sont, en premier lieu, la rejection et la mort de Christ, ensuite, la rejection d'Israël selon la chair, et enfin, l'appel de l'Église à la glorieuse position d'épouse de l'agneau. Or, tout cela correspond exactement avec le contenu de ce chapitre et des deux précédents. Il fallait que la mort de Christ soit un fait accompli avant que l'Église puisse être appelée à l'existence. Il fallait aussi que le mur mitoyen de clôture entre Juifs et nations soit aboli. Il est important que nous comprenions bien ceci, afin que nous sachions quelle est la place que l'Église occupe dans les voies de Dieu. Aussi longtemps que l'économie juive subsistait, Dieu avait établi et voulait maintenir la plus stricte séparation entre les Juifs et les Gentils. Si le peuple d'Israël avait marché avec Dieu dans l'intégrité des rapports dans lesquels Dieu l'avait placé, il aurait été maintenu dans cette position spéciale de privilège et de séparation. Mais Israël suivit une autre voie. C'est pourquoi, lorsqu'il eut comblé la mesure de ses iniquités en crucifiant le prince de la vie et en rejetant le témoignage du Saint-Esprit, Paul fut suscité pour être l'administrateur d'un nouvel ordre de choses. Lui-même dit à ce sujet : « C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation le mystère m'a été donné à connaître, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. » Éphésiens 3, versets 1 à 6. Voilà qui est concluant. Le mystère de l'Église, composé de Juifs et de Gentils, baptisés en un seul corps par un même esprit, unis au chef glorieux dans les cieux, n'avait aucunement été révélé jusqu'au jour de Paul. « De ce mystère, continue l'apôtre, je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, selon l'opération de sa puissance. » Verset 7. Les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament furent, pour ainsi dire, la première assise de ce glorieux édifice. Voyez Éphésiens 2, verset 20. Cela étant, il est clair que le bâtiment ne pouvait avoir été commencé auparavant. Voir aussi Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai. Il s'ensuit que, quelle que soit la position assignée au sein de l'Ancien Testament, il est impossible qu'il puisse appartenir à un corps qui, jusqu'à la mort et à la résurrection de Christ, et à la descente du Saint-Esprit, résultat de cette résurrection, n'avait d'existence que dans les desseins de Dieu. Ces saints étaient sauvés par le sang du Christ et destinés à jouir de la gloire céleste avec l'Église, mais ils ne pouvaient faire partie de l'Église. Cependant, bien que l'Ancien Testament ne contienne aucune révélation directe du grand mystère de l'Église, il est important d'observer qu'il renferme néanmoins des scènes et des circonstances qui le préfigure d'une manière remarquable, comme en témoigne celle que nous présente le chapitre qui nous occupe. Le Fils, ayant en figure été offert en sacrifice et rendu à la vie, et le tronc duquel le Fils était issu étant en quelque sorte mis de côté, le Père envoie le serviteur à la recherche d'une épouse pour le Fils. Le serment du serviteur. Il est beau de voir que l'appel et la haute position qui allait être donnée à Rebecca étaient fondés sur le serment qui scellait l'accord du serviteur et d'Abraham. Rebecca ignorait ces choses, bien que, dans les desseins de Dieu, elle ait été l'objet de cet accord. Il en est ainsi de l'Église de Dieu, considérée comme un tout ou dans chacune de ses parties constitutives. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, versets 29 et 30. L'appel, la justification et la gloire de l'Église sont fondées sur le dessein éternel de Dieu, sur sa parole et son serment. C'est dans les profondeurs de l'éternelle pensée de Dieu, au-delà des limites les plus reculées du temps, que reposait ce merveilleux dessein qui avait l'Église pour objet et qui est indissolublement lié à la pensée de Dieu à l'égard de la gloire de son Fils. Heureux celui qui voit que la sécurité et le bonheur de l'Église sont inséparablement liés à Christ et à sa gloire. Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son Fils. Matthieu 22, verset 2. Le Fils est l'objet principal de toutes les pensées et de tous les conseils de Dieu. Et si quelqu'un est amené au bonheur ou à la gloire, ce ne peut être qu'en rapport avec le Fils. Par le péché, l'homme a perdu tout droit à ces choses et à la vie elle-même. Mais Christ a pris sur lui le châtiment dû au péché. Il s'est rendu responsable de tout pour les siens. Il a été cloué à la croix comme leur représentant. Il a porté leurs péchés en son propre corps sur le bois. Leur délivrance est complète. Leur bonheur éternel est assuré. La vie, la justice et l'espérance des croyants découlent de ce qu'ils ont été faits un avec celui qui a été ressuscité d'entre les morts. Rien n'est propre à affermir le cœur comme la conviction que l'existence de l'assemblée est essentielle à la gloire de Christ. L'assemblée est appelée la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. Quelle expression remarquable! Le mot traduit par plénitude signifie le complément, ce qui, ajouté à une autre chose, compose un seul tout avec elle. C'est ainsi que Christ et l'assemblée, la tête et le corps, composent le seul homme nouveau. Éphésiens 2, verset 15. Si nous considérons le sujet à ce point de vue, nous ne serons pas étonnés que l'assemblée ait été l'objet des conseils éternels de Dieu. Il y avait de merveilleuses raisons pour que le corps, l'épouse, la compagne de son Fils unique, occupe les pensées de Dieu dès avant la fondation du monde. Abraham dit au serviteur, « Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquelles j'habite. » Verset 3. Une femme pour mon fils est ici le point important. L'assemblée est nécessaire à Christ. Et dans l'œuvre qu'il a accomplie, il a été pourvu à tout pour qu'elle puisse être appelée à l'existence. Il ne s'agit pas seulement de la puissance de Dieu pour sauver de pauvres pécheurs, mais Dieu veut faire des noces pour son Fils, et l'assemblée est l'épouse qui lui est destinée. Elle partagera la dignité et la gloire du Fils, tout comme elle a part à l'amour dont il a été aimé. Écoutez les propres paroles du Fils. « Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, versets 22 et 23. Voilà les pensées du cœur de Christ à l'égard de l'assemblée. Elle est non seulement destinée à être telle qu'il est lui-même, mais elle est déjà, dès à présent, comme lui est, ainsi qu'il est écrit, « En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. » 1 Jean 4, verset 17. Toute incertitude est bannie, car tout est assuré à l'épouse dans l'époux. Tout ce qui appartenait à Isaac devint la propriété de Rebecca. De même aussi, tout ce qui appartient à Christ est la part de l'Église. Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit chose présente, soit chose à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 21 et 22. Ce sera la joie de Christ pendant toute l'éternité de manifester l'Église dans la gloire et la beauté dont il l'aura revêtue, et qui n'est que le reflet de sa gloire et de sa beauté à lui. Le témoignage du serviteur. Nous arrivons maintenant au second point dont nous avons parlé plus haut. Le serviteur était porteur d'un témoignage clair et précis. Il dit « Je suis serviteur d'Abraham. Or, l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand, et il lui a donné du menu bétail et du gros bétail, et de l'argent et de l'or, et des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a, dans sa vieillesse, enfanté un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il a. » Versets 34 à 36. L'Écriture nous présente ici en figure le témoignage du Saint-Esprit envoyé du ciel sur la terre le jour de la Pentecôte. Quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Et encore, quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 à 15. C'est en parlant d'Isaac que le serviteur cherche à gagner le cœur de Rebecca. Et c'est en leur parlant de Jésus que le Saint-Esprit cherche à détourner les pauvres pécheurs d'un monde de péché et de folie pour les faire entrer dans la bienheureuse unité du corps de Christ. Le Saint-Esprit ne porte jamais les croyants à le regarder lui ou à contempler son œuvre, mais à fixer toujours et uniquement leur regard sur Christ. Contempler sans cesse son propre cœur et s'appesantir sur ce qu'on peut y découvrir, même si c'est l'œuvre de l'Esprit, paraît à certaines personnes une grande preuve de spiritualité, mais c'est une grave erreur. Toutes les fois qu'une personne regarde au-dedans d'elle-même et s'appuie sur les résultats de l'œuvre de l'Esprit qu'elle y découvre, elle peut compter qu'en cela, elle n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit attire les âmes à Dieu en leur présentant Christ. L'Évangile est, avant tout et par excellence, la révélation d'une personne, de la personne du Fils. Et cette révélation, reçue par la foi, attire le cœur à Christ et devient la source de la vie et de la puissance. Il est remarquable de trouver, dans ce chapitre 24 de la Genèse, une image aussi belle de la mission et du témoignage spécial du Saint-Esprit. En cherchant à procurer une épouse à Isaac, le serviteur d'Abraham développe toute la gloire et toutes les richesses qui ont été conférées à Isaac par son père. L'amour dont celui-ci est l'objet, et tout ce qui était propre, a touché le cœur de Rebecca et a le détaché des choses au milieu desquelles elle avait vécu. Il montre à Rebecca un objet éloigné et lui révèle le bonheur qu'il y a pour elle à devenir une avec lui. Tout ce qui appartient à Isaac va lui appartenir dès qu'elle sera une avec lui. Tel est aussi le témoignage du Saint-Esprit. Il parle de Christ, de sa gloire, de sa beauté, de sa grâce, de ses richesses insondables, de la dignité de sa personne et de la perfection de son œuvre. Il révèle le bonheur indicible qu'il y a à être un avec un tel Christ, membre de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5, verset 30. Nous avons là une excellente pierre de touche pour éprouver toute espèce d'enseignement et de prédication. L'enseignement spirituel sera toujours caractérisé par une pleine et constante présentation de Christ. L'Esprit ne peut s'arrêter que sur Jésus. Parler de Christ fait ses délices. Si donc quelqu'un sert dans l'Évangile par la puissance de l'Esprit de Dieu, il y aura toujours plus de Christ que de toute autre chose dans son ministère. Les raisonnements de la logique humaine n'y trouveront guère de place. Ils ne conviennent que là où l'homme désire se mettre en avant lui-même. Le résultat de la mission du serviteur. Pour ce qui concerne Rebecca, le résultat du témoignage rendu par le serviteur est entièrement positif. Elle entend de ses oreilles, elle croit du cœur, et ainsi elle est détachée de tout ce qui l'entoure. Elle est prête à tout quitter et à courir vers le but, afin de saisir ce par quoi elle a été saisie. Voir Philippiens 3, versets 12 et 13. Si l'espérance d'être l'épouse d'Isaac et cohéritière avec lui de toute sa gloire était pour elle une réalité, demeurer chez Laban aurait été, de sa part, mépriser, en pratique, tout ce que Dieu, dans sa grâce, avait placé devant elle. Mais non. L'espérance qu'elle a en vue est trop glorieuse pour que Rebecca l'abandonne aussi légèrement. Elle n'a pas encore vu Isaac, il est vrai, non plus que l'héritage, mais elle a cru le témoignage qui lui a été rendu d'Isaac et elle a reçu des arts de l'héritage. Cela suffit à son cœur. C'est pourquoi, sans hésiter, elle se lève et déclare qu'elle est prête à partir. « J'irai, » dit-elle, verset 58. Elle est prête à entrer dans un chemin inconnu en compagnie de celui qui lui a révélé un objet éloigné et une gloire unie à cet objet, gloire à laquelle elle va être élevée. Belle et touchante image de l'assemblée qui, sous la conduite du Saint-Esprit, s'avance à la rencontre de l'époux. C'est là, du moins, ce que l'Église devrait être. Hélas, elle en est bien loin. On voit en elle bien peu de cette sainte joie qui rejette tout fardeau et tout obstacle dans la puissance de la communion avec son guide et compagnon de voyage, dont l'office est de prendre ce qui est à Jésus et de nous l'annoncer. Le serviteur d'Abraham, sans doute, parlait à Rebecca des choses qui étaient à Isaac, à mesure qu'ils avançaient vers le but de leur voyage. Nous avons un besoin réel du ministère de l'Esprit qui révèle Christ à nos âmes, nous faisant ardemment désirer le voir tel qu'il est et lui être fait semblable pour toujours. L'Esprit a le pouvoir de remplir nos cœurs de Christ et de les détacher de la terre. Quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. 1 Jean 3, versets 2 et 3.